Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'action qui libère » est un ouvrage de développement personnel et de psychothérapie appliquée signé par Elisabeth Horowitz, psychopraticienne connue pour ses travaux sur la psychogénéalogie, le symbolisme et les approches transgénérationnelles. Le livre rassemble 200 actes et rituels symboliques destinés à aider le lecteur à faire évoluer des situations affectives, matérielles ou professionnelles. Son principe central consiste à quitter la seule logique des résolutions mentales pour passer par des gestes concrets, des objets du quotidien, l'écriture, les images ou la mise en scène symbolique. L'ouvrage se situe à la frontière entre thérapie brève, psychomagie, art-thérapie et réflexion sur les héritages familiaux. Il ne propose pas un traité théorique abstrait, mais une boîte à outils pratiques, souvent ludiques, conçue pour rendre tangible un travail intérieur de libération et de transformation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une méthode fondée sur l'acte symbolique plutôt que sur la résolution mentale. Le cœur du livre repose sur une idée nette, un changement durable ne passe pas seulement par la volonté ou par des décisions rationnelles, mais aussi par des actes symboliques capables d'agir à un autre niveau de la psyché. Elisabeth Horowitz présente des micro-rituels simples, rapides et accessibles, construits autour de gestes concrets. Cette orientation distingue l'ouvrage des livres de développement personnel centrés sur l'introspection ou l'autodiscipline, car il privilégie la mise en scène d'une situation à dépasser. Le lecteur n'est pas invité à analyser indéfiniment son problème, mais à le matérialiser par une action signifiante. Cette logique s'appuie sur l'idée que le symbole peut contourner certaines résistances psychiques. L'intérêt de cette approche est pratique, elle donne une forme opératoire à des blocages parfois diffus, comme la peur, la répétition d'échecs, l'insatisfaction relationnelle ou les tensions professionnelles. Le livre propose ainsi une manière différente de travailler sur soi, plus incarnée et moins conceptuelle. Deuxièmement, 200 rituels concrets avec des objets ordinaires pour transformer le quotidien. L'un des aspects les plus distinctifs de l'ouvrage est son inventaire de 200 actes et rituels, conçus à partir d'objets et de supports très ordinaires. Photographies, clés, vêtements, papier à lettres, couleurs, dessins, pierres, graines ou masques deviennent des médiateurs d'action psychologique. Cette matérialité est importante, car elle donne au lecteur des outils immédiatement utilisables sans matériel complexe ni cadre thérapeutique lourd. Les rituels sont pensés pour être adaptables à des situations variées, relations affectives difficiles, blocages financiers, difficultés professionnelles, manque d'estime de soi ou sentiment d'enlisement. L'ouvrage se distingue ici par son aspect concret et non théorique. Il ne se contente pas d'exposer un principe général, il décline une grande diversité de formes d'intervention symbolique. Cette diversité permet au lecteur de choisir des gestes en fonction de sa sensibilité et du problème visé. Le livre fonctionne donc comme un catalogue de solutions symboliques plutôt que comme une démonstration abstraite du pouvoir des rites. Troisièmement, la psychogénéalogie comme clé de lecture des blocages répétitifs. Un autre axe fort du livre est son inscription dans la psychogénéalogie. Elisabeth Horowitz relie les difficultés présentes aux histoires familiales, aux transmissions inconscientes et aux schémas qui se répètent d'une génération à l'autre. Cette perspective donne au symbole une fonction particulière. Il ne sert pas seulement à résoudre un problème immédiat, mais aussi à modifier une dynamique héritée. Le livre met en avant l'idée que certains blocages psychiques trouvent leur source dans la lignée, dans les loyautés invisibles ou dans des deuils non élaborés. Cette lecture transgénérationnelle apporte une profondeur supplémentaire au rituel proposé, car elle inscrit les gestes dans une logique de réparation de la continuité familiale. L'ouvrage n'exige pas de partager intégralement cette vision pour en comprendre l'intérêt. Il propose surtout un cadre de pensée où les symptômes ne sont plus vus comme isolés, mais comme potentiellement liés à une mémoire relationnelle. Cela explique pourquoi le livre séduit des lecteurs sensibles aux liens entre histoire familiale, répétition et possibilité de rupture symbolique. Quatrièmement, le courrier thérapie et l'écriture comme moyen de dire, réparer et relâcher. Parmi les outils présentés, l'écriture occupe une place importante, en particulier sous la forme de courrier thérapie. Il s'agit d'écrire à soi-même, à un proche, à une figure absente ou à un disparu, afin d'exprimer ce qui n'a pas pu être dit autrement. Cette pratique n'est pas réduite à un simple exercice d'écriture expressive, elle est pensée comme un acte symbolique à part entière. Le livre montre que la lettre peut servir à formuler un pardon, une demande de réparation, un reproche, un adieu ou un geste de reconnaissance. L'intérêt thérapeutique vient de la possibilité d'organiser les affects dans un cadre précis, souvent plus efficace que la parole spontanée quand les émotions sont confuses ou bloquées. En intégrant l'écriture au sein des rituels, l'auteur renforce l'idée que la transformation passe par une forme de mise en forme du vécu. La lettre devient alors un support de séparation, de transmission ou de clôture. Ce volet donne au livre une dimension très concrète pour les lecteurs, qui cherchent une manière structurée de travailler le passé sans entrer immédiatement dans un long processus analytique. En dernier lieu, une écriture hybride entre thérapie brève, psychomagie et créativité humoristique, le livre se distingue aussi par son ton et par son positionnement méthodologique. Il emprunte à plusieurs univers la thérapie brève, la psychomagie, l'art-thérapie, la pensée symbolique et certaines inspirations issues des traditions anciennes. Cette hybridation produit un ouvrage à la fois pragmatique et inventif, où l'humour, la surprise et la créativité occupent une place réelle. Les rituels ne sont pas présentés comme des recettes solennelles, mais comme des propositions parfois décalées, capables de contourner les résistances par le jeu et l'imagination. Ce parti pris explique en partie la réception contrastée du livre. Certains lecteurs y voient une source d'inspiration très efficace, tandis que d'autres peuvent rester sceptiques face au caractère inhabituel de certaines pratiques. Cette tension fait partie de son identité. L'ouvrage ne cherche pas à convaincre par une démonstration scientifique stricte, mais par une logique d'expérimentation guidée. Il s'adresse donc à des lecteurs ouverts aux approches symboliques, désireux d'explorer une alternative concrète aux méthodes plus classiques de changement personnel. En conclusion, l'action qui libère s'adresse en priorité aux lecteurs qui s'intéressent aux approches symboliques du changement, à la psychogénéalogie, à la thérapie brève ou aux outils pratiques de transformation personnelle. Il peut être utile à ceux qui cherchent des réponses concrètes à des difficultés récurrentes, qu'elles soient affectives, familiales, professionnelles ou émotionnelles. Son principal intérêt est de proposer des gestes immédiatement exploitables, sans demander un investissement matériel important ni un long apprentissage et théorique. Le lecteur y trouve une méthode fondée sur l'expérimentation, avec une grande variété de rituels et d'entrées possibles selon sa sensibilité. Ce qui le différencie d'autres livres du même genre, c'est l'ampleur du répertoire proposé et l'articulation entre actes symboliques, histoire familiale et écriture thérapeutique. Là où beaucoup d'ouvrages de développement personnel restent abstraits ou prescriptifs. Celui-ci mise sur des situations concrètes et sur une logique d'action incarnée. Il constitue ainsi une ressource singulière pour les personnes qui veulent explorer une autre façon de penser la libération psychique, à mi-chemin entre introspection